Bon, c'est évidemment une parcha très importante. Comme chacun sait, elle contient les Aseret HaDibrot. Mais on va voir un peu plus en détail. Alors juste pour mémoire, parce que répéter souvent, la Torah, elle dit que Yitro, il est venu parce que il a entendu tout ce que Hachem, tout ce qu'Elohim avait fait à Moshe, à Israël, son peuple, que Hachem a sorti les bénis d'Israël de Mitzraïm. Donc il a entendu la sortie d'Égypte. Mais ensuite, Hazal rapporte, ils ont une manière en discussion, veut savoir qu'est-ce qu'il a entendu précisément. Rashi demande, Mashmoa Shama Uba, qu'est-ce qu'il a fait bouger? Alors, a priori, si on pense que la Torah est écrite de façon presque toujours en respectant la chronologie, donc là, ici, la Parshat Yitro, elle est avant, on est avant Matan Torah, et on est après Kriyat Yamsouf et Milchemet Amalek. Donc, qu'est-ce qu'il a entendu? Ben, il a entendu Yamsouf et Milchemet Amalek. Ça, c'est de lire les choses, de lire le texte ici comme en tenant compte de la chronologie. Ça, c'est la chita du Ramban. Rashi dit que il y a dans la Torah des épisodes qui sont rapportés en dehors de la chronologie, c'est-à-dire sans respecter la chronologie, avec le fameux principe de En Mukdam Mokhar Batorah. La Torah ne respecte pas justement la chronologie. Donc d'après Rashi, alors la question, c'était une vraie question. Et donc, en quelque sorte, Rashi ramène ici que ce qu'il a entendu, c'est ce qui correspond à la chronologie. Même si lui, il admet qu'éventuellement, ça ne puisse, ce ne soit pas obligatoirement chronologique. Là, en l'occurrence, c'est chronologique. Alors, la juxtaposition de l'histoire d'Amalek, de la guerre contre Amalek, de la venue de Yitro, c'est donc la confrontation des Bnei Israël avec un peuple qui veut les détruire et avec quelqu'un qui vient et qui va donner des conseils qui vont être acceptés, qui vont être intégrés à la halakha finalement même. Yitro, il va donner des conseils sur l'organisation du système des tribunaux dans le cas d'Israël. Ben, il va donner ça comme conseil à Moshe Rabbeinu, et Moshe Rabbeinu, il va interroger Hachem, et Hachem va lui dire, oui, c'est bon, c'est des bons conseils, et on a intégré cette espèce de hiérarchie des tribunaux, qui existe encore aujourd'hui, en théorie. Ensuite, la deuxième chose qui est importante, c'est que il est vrai que, il y a la venue de Yitro, mais Yitro, il n'est pas venu tout seul. Yitro, il est venu avec Tsipora, la femme de Moshe, et avec ses deux enfants, ses deux garçons. Et donc, là, c'est très important parce que si on dit qu'il est venu avant Matan Torah, alors Tsipora et les garçons et les fils de Moshe ont vécu Matan Torah avec tout le clan d'Israël. Et comme on sait que, il y a eu dans le processus, enfin, ce qui a précédé le don lui-même de la Torah, il y a eu une conversion généralisée. Tout le monde s'est converti. Et donc, eux aussi se sont convertis avec tout le monde. Mais la Chita, on verra plus loin, beaucoup de Rashi et d'autres qui pensent que il est venu après Matan Torah. Ça voudrait dire que Tzipora et les fils de Moshe sont les seuls juifs qui n'étaient pas là à Matan Torah et qui, eux, ont fait la première conversion individuelle en dehors de la conversion collective qui a eu lieu avant. Donc, c'est à la fois tragique, je veux dire, dans penser que Moshe qui a tout fait, qui a dirigé l'État d'Israël dans toutes ces situations, eh bien, sa femme et ses enfants n'y étaient pas. C'est chita, c'est énorme. Yitro a été reçu en grande pompe avec par tout le clan Israël. Et dans le Passouk Chet, on nous dit, ben, il s'appelle Moshe le Chotno et Kol Asher Asa Hashem le Pharaon ou le Mitzrayim à l'Odot Israël et Kol Atlaa Atlaa Hashem et Saatam Baderech Vyatsilem Hashem. Moshe Rabbeinu a raconté toute l'histoire de la sortie d'Égypte à tout ce qu'Hachem a fait pour le clan Israël, tout ce qu'il aurait, le fait qu'ils ont été attaqués, etc., et que partout Hachem les a sauvés. Et la question qui se pose, évidemment, c'est que on vient de dire que c'est parce qu'il avait entendu parler de cela qu'il est venu, Yitro, alors. Qu'est-ce que mon cher Abbé nous lui raconte? Il raconte une histoire que Yitro, non seulement il la connaît, mais c'est ça la motivation pour laquelle il s'est présenté chez le clan Israël. Alors, il faut expliquer que ce que Moshe a raconté à Yitro, Yitro ne le connaissait pas, parce que Moshe lui racontait la sortie d'Égypte et Kriyat Yamsouf et Milhemet Amalek de l'intérieur. Lui, il en a entendu parler de l'extérieur. Il a lu les journaux, donc ce que les journaux en disaient. Mais ce que Moshe Rabbeinu lui a dit, c'est comment ils ont été vécus, comment tous ces événements ont été vécus par les Bnei Israël de l'intérieur et avec ce dialogue avec Hachem. Tout ça, il n'en savait rien, Yitro. Il a seulement su que le Dieu des Juifs, il a protégé les Juifs, il les a sauvés, c'est tout. Avec des façons extraordinaires. Mais toute la. Tout ce que nous savons, nous, de la façon dont on a vécu, on les Bnei Israël ont vécu ces événements, ça, c'est quelque chose que Yitro ne connaissait pas, et il connaissait visiblement pas non plus le détail de tout ce qui a été, de tout ce qu'Hachem a fait pour les Bnei Israël contre l'Égypte. Et d'ailleurs, quand il a appris que tout ce qu'Hachem avait fait à l'Égypte, dans le passage suivant, il nous dit Vayichad Yitro al kol ha-tova asher asa Hashem li Yisrael asher hitzilo miyad Mitzrayim. Vayomer Yitro, alors on va tout de suite le gomer, tout de suite on va venir la suite, mais ici le mot qui est utilisé, le Vayichad Yitro, ça veut dire il s'est réjoui. On s'est réjoui. Mais pourquoi on n'a pas utilisé la simcha ou rina, enfin, parce que dans le mot chad, vous entendez, chad ça veut dire pointu. De là on apprend qu'en vérité, quand Yitro a entendu tout ce que Hachem avait fait à l'Égypte, Yitro il a attrapé la chair de poule. Ça, la pointe. Ça veut dire que Yitro, c'est assez curieux parce que Yitro se considère vraiment comme un Égyptien. En tout cas, il est sensible. Quand Moshe est arrivé chez lui et qu'il a dit qu'il avait tué, il lui a dit qu'il avait tué l'Égyptien, il l'a mis en prison. Et maintenant, quand on lui raconte ce que l'Égypte a subi parce qu'ils ont fait subir ce qu'ils ont fait à Israël, là, du coup, il attrape la chair de poule. Donc, il est encore vrai, il est très concerné. Et malgré le fait qu'en réalité, il avait dû fuir, lui, il a fui, trop. Il était conseiller de Pharaon, mais il est parti. Quand Bilam, qui était un des trois conseillers, a donné le conseil de noyer les petits garçons, trop ça lui a pas plu, il est parti. Il est devenu persona non grata en Égypte. Il est devenu parce qu'il était un très très grand personnage. Si vous imaginez, il y avait trois conseillers de Pharaon et lui était un des trois. On ne sait pas s'il était égyptien, parce que l'Égypte était un grand royaume et il pouvait très bien avoir des conseillers étrangers, des gens. On n'en sait rien, quoi. Mais en tout cas, il était un grand personnage et c'est comme ça qu'il est devenu grand prêtre. Ça veut dire qu'il est devenu un personnage très très important à Midian. Mais là, malgré tout, il est très sensible à ce qui arrive à l'Égypte, quoi. Avec tout ce qu'il a compris, compris que Hachem a puni l'Égypte, donc c'était juste de punir l'Égypte, etc. Mais lui, ça l'affecte quand même. Et puis ensuite, il y a quelque chose qui est une espèce de caillou dans la chaussure des Bnei Israël, c'est que la fin du verset, c'est qu'après que, effectivement, il a eu la chair de poule, tout ce que tu veux, mais quand Moshe a fini de lui raconter tout ce qu'Hachem avait fait, Vayomer Yitro, Baruch Hachem, Asher Hitzil Etchem, Miyad Mitzrayim, Miyad Paro, Asher Hitzil Et Ha'am, Mitachat Yad Mitzrayim. Il a fait une bracha. Il a fait une bracha pour Hachem et il a fait cette bracha alors que les Bnei Israël ne l'avaient pas faite. Et puis, on descend encore quelques psukim. Alors, commence le récit donc des interventions, des conseils de Yitro sur l'organisation des tribunaux. Et je reprends à la quatrième montée, à Revi'i, en Perek Yud-Tet. Bachodesh HaShlishi, c'est-à-dire au mois de Sivan, troisième mois, Nissan Iyar Sivan, donc chapitre 19. Bayom Hazé, ce jour-là, Hazé, c'est un jour qu'on peut montrer du doigt. Alors, qu'est-ce que ça vient dire ici, Bayomazé? On veut dire, c'est un jour bien précis. Baou Midbar Sinaï. Les Bnei Israël sont arrivés dans le désert du Sinaï. Vaïssou Mirfidim, Vaïavou Midbar Sinaï. On revient en arrière et on nous dit, ils étaient partis de Refidim, où a eu lieu la guerre contre Amalek, et ils sont arrivés au Midbar Sinaï. Bamidbar. Ils ont campé dans le désert. Sur ce Bayom Hazé, ce jour-là, pourquoi c'est tellement important l'importance de ce jour-là. Alors, on nous dit, Bayomazé, on aurait dû dire, dit Rashi, on aurait dû dire, parce que c'était Rosh Chodesh, on aurait dû dire simplement Bayomahou, le jour de. Qu'est-ce que vient dire ici Bayomazé? Rashi dit, Cheyu divrei Torah chadashim, Alecha, Keilu ayom nitnu. De là, on déduit que les paroles de Torah doivent être pour toi comme si elles t'avaient été données le jour même. C'est-à-dire, tu dois veiller à renouveler en quelque sorte ton rapport, ton regard sur les mitzvot. Si vous voulez, une mitzvah, je l'ai déjà dit, mais bon. Vous vous souvenez, on a dit que le mot mitzvah, la graphie du mot mitzvah, elle permet de lire mitzvah, même tzadik vavé, mais aussi metzavé, et aussi Metsouvé. Donc en fait, il y a trois lectures possibles de cette notion de ce mitzvah. C'est l'ordre que Hachem m'a donné, c'est celui qui a donné l'ordre et celui qui a reçu l'ordre. Donc il faut bien comprendre, quand on fait une mitzvah, je fais une mitzvah parce que c'est la volonté d'Hachem. Et moi, j'accepte de faire cette mitzvah, en quelque sorte. Moi, quand je fais la mitzvah, je boucle la boucle. Il était descendu, l'ordre qui vient d'Hachem s'adresse à moi, et moi, j'agis selon cet ordre que j'ai reçu. Ça referme une boucle, c'est un cycle. Une mitzvah, c'est à chaque fois un cycle de relation entre Hachem et le Clarisse, et chaque Ben Israël qui fait une mitzvah. Et par conséquent, on a ici quelque chose de très important. Qu'est-ce que ça veut dire, Bayomazé? Alors, Rashi dit, si on dit c'est Bayomazé, ça veut dire c'est tous les jours. Si on avait dit Bayomahou, alors je te parle de ce jour-là, ce premier. Sur Rosh Chodesh Sivan. Mais évidemment que quand ils sont arrivés dans le désert, ben ils sont arrivés en un jour bien précis et pas tous les jours. Mais ici, comme on va vers une qualité, enfin un certain type de relation entre le clan Israël et Hachem. Donc je vais revenir sur ce Ayomazé. Alors, vous remarquez, d'abord, ce qu'on remarque beaucoup, c'est que dans cette phrase-là, on n'arrête pas de répéter le mot Midbar. On a compris qu'ils étaient arrivés dans le Midbar. D'accord? Ils sont arrivés dans le Midbar. Ils sont partis de Réphidim, ils sont arrivés dans le Midbar. Dans le Midbar, ils ont campé. Et puis après, bon, finalement, Cham, on a mis un pronom quand même, hein. On n'a pas répété encore une fois Midbar. Mais alors là, ce qu'il faut, enfin, ce que tout le monde remarque, évidemment, c'est que il est dit que les Bnei Israël sont arrivés dans le désert et ils ont campé dans le désert. En soi, c'est un peu trivial, je veux dire. Qu'est-ce qu'ils allaient faire? Ils n'allaient pas rester debout. Il fallait bien qu'ils campent, non? Mais si vous regardez le verset bête, le deuxième verset, la fin du verset, il dit, Vayavo Midbar Sinai, ils sont arrivés dans le Midbar Sinai, Vayachanu, et ils ont campé dans le désert, Vayichan Sham Israël Negedhar. Et là, tout à coup, le verbe, Vayachanu, le verbe camper, qui était au pluriel ici, ils ont campé, maintenant, Vayichan Israël. Bon, et c'est de là, c'est ici que on situe justement le passage d'Ebné Israël du stade d'un ensemble de personnes qui sont sorties d'Égypte. Et maintenant, ils sont un peuple. D'accord? Si on peut les nommer avec au singulier, ce qui forme un tout, ils forment un peuple. Mais jusque-là, ils ne sont pas un peuple, complètement. C'est des embryons de peuple, si vous voulez, mais il n'y a pas de peuple. Le peuple, il naît ici. Il naît dans le désert, face à la montagne. Parce que face à la montagne, Rachid dit que partout où c'est marqué Negedahar, c'est le Mizracho, c'est toujours à l'est, c'est-à-dire tourné côté est. Et qu'est-ce qui se passe? Ce qui se passe, c'est où Moshe alla El Ha'Elokim. Et Moshe est monté vers Elokim. Rashi dit, Moshe alla, Payom HaSheni. Le 2 Sivan, il est monté sur la montagne. Alors, en principe, à part ça, Rachid dit, chaque fois que on parle de monter, c'est toujours tôt le matin. On ne sait pas pourquoi Moshe ici a décidé de monter. Bon, il n'a pas écrit un ordre de la part d'Hachem qui lui dise tu vas monter. Il prend l'initiative, semble-t-il, de monter. Et Vayikra Elav Hachem Minhar. Et comme lui, il a pris l'initiative de monter, Hachem lui a parlé et il lui parle min ha-ha. Il lui parle et la voix semble venir de la montagne. Et voilà ce qu'Hachem lui dit. Ko tomar levet Yaakov vetaged livnei Israël. Ko, ainsi. Ainsi tu parleras à Obet Yaakov. Alors ici, le parler se dit Thomas, Amira. Amira, on sait, Amira, ça veut dire, c'est une parole douce. Va alors parler avec douceur. À qui tu parles? Bet Yaakov. Qu'est-ce que c'est Bet Yaakov? La maison de Yaakov? Tous les Bnei Israël sont les Bet Yaakov. Mais dans ce verset, Bet Yaakov, ça veut dire les femmes. Vetaged, et là on a pris un autre mot pour parler. Taged, la shon, peut-être Agada, mais c'est la shon construite. Il y a quelque chose dans Taged qui sonne le guide. Guide, c'est des tendons, c'est-à-dire des choses dures. Donc c'est une parole plus dure. C'est pas que la parole est tellement dure, mais c'est que tu vas donner des dinim et tu vas dire ce qu'on encourt quand on transgresse, ça tu ne le diras qu'aux hommes, tu ne racontes pas ça aux femmes. Donc, première indication, comment tu vas t'adresser? D'abord, il faut s'adresser différemment aux femmes et différemment aux femmes et aux hommes. Ça, c'est la première. On n'a pas encore dit ce que tu vas dire, mais tu vas le dire d'une autre manière. A priori, tu vas dire la même chose, mais d'une autre manière aux hommes et aux femmes. Et c'est quoi le contenu? Tu vas leur dire, Atem ri'tem asher asiti le Mitzrayim. Vous avez vu ce que j'ai fait à l'Égypte. Donc c'est pas quelque chose qu'on vous a raconté. Vous avez vu que j'ai puni l'Égypte pour tout ce qu'ils avaient. Toutes les avérotes qu'ils ont fait contre moi, en quelque sorte. Mais vous avez vu que j'ai puni l'Égypte par votre entremise, c'est-à-dire, voilà, c'est sur ce qu'ils vous ont fait. Et vous avez vu que ce que j'ai envoyé à l'Égypte, à chaque fois, vous ostensiblement, vous n'étiez pas concerné. Vous, ça ne vous a pas touché. Ça est très mal charim. Je vous ai transporté en vous protégeant comme un aigle qui transporte ses oisillons, les aiglons, quoi, sur ses ailes. Parce que comme il vole au-dessus de tous, tout ce qu'il craint, c'est que les hommes tirent des flèches. Et là, il met son corps entre les flèches et les oisillons. Les autres oiseaux qui portent leurs enfants en dessous, ce qui peut être agressé par des oiseaux de proie qui viennent au-dessus d'eux. Donc, ils mettent aussi leur corps entre le prédateur et leurs oiseaux, leurs petits. Vous, je vous ai protégé complètement. Va vie etrem elai. Et je vous ai amené à moi, vers moi. Moi, je dis que va vie etrem elai. C'est Kitirgumo, comme le Targum. Dans le Targum, il y en a le Targum de Unkeles, il traduit « Je vous ai rapproché à mon service. Enfin, je vous ai amené vers moi, c'est-à-dire, je vous ai mis à mon service. » C'est un privilège d'être le serviteur d'Hachem. Et maintenant, im shamoa tishmeu bekoli. Si vous écoutez ma voix, écoutez ma voix. J'ai dit, si maintenant te kablou alechem, si maintenant vous acceptez, vous engagez à accepter ma voix, c'est ce que je vais vous dire, yirav lachem mikan, ce sera bon pour vous, ce sera bien pour vous. Alors c'est vrai que c'est difficile, kolat halot kashot. Ce sera difficile au départ, mais ultimement, ça sera bien pour vous. Et puis il dit quelque chose d'autre. Ushmartem et Briti. Et vous allez garder, respecter mon alliance. Quelle alliance? C'est une alliance dont Rashi dit chez Rotimachem al Shmirat Torah. Je vais faire une alliance avec vous. Votre tâche dans cette alliance, ce sera de garder la Torah, respecter la Torah. Et moi, et je ferai de vous mon trésor, c'est-à-dire je vais vous singulariser parmi tous les autres peuples. Tous les peuples m'appartiennent, toute la terre est à moi. Je vais vous donner à vous un statut particulier. C'est le fait qu'Hachem va devenir notre Elohim, Elohim. Donc c'est ça l'alliance. Cette alliance, Hachem demande, est-ce que vous êtes d'accord d'accepter mon alliance? Bon, alors la fixation de l'alliance, elle aura lieu. Elle n'a pas lieu maintenant, ici. Chez Echrot Imachem, Hashmirat HaTorah. L'alliance que je conclurai avec vous, qui est, vous allez accepter la Torah. L'alliance. À la limite, donc l'alliance, ça consiste, sans connaître le contenu, d'accepter de vous allez accepter de faire ce que je vous dirai de faire. Et moi, de mon côté, je ferai de vous un peuple extraordinaire. Ça veut dire que la sortie d'Égypte, c'était pour ça. Si on peut parler comme ça, la sortie d'Égypte, ce n'était pas pour les Aseret Hadibrot. C'était pour l'alliance avec Hachem. Ce qui est important, c'est que Hachem nous propose un truc impensable. Les Aseret Hadibrot, c'est des lois. Ils sont énoncés, qui me disent, tu vas respecter ces lois-là. Bon, à la limite, Hachem pourrait dire, tu respectes ces lois, un point barre. Pourquoi? Ben parce que c'est moi qui ai créé le monde, donc tu es chez moi, tu respectes la loi. Non. Ce pourquoi Hachem a sorti les bénis Israël, c'est pour qu'ils soient en alliance avec Hachem. Vous savez, le quatrième lachon de Géoula, les quatre langages de Géoula, le quatrième, c'est vraiment, je vous prendrai comme mon peuple et je serai votre Dieu. C'est l'alliance. Le summum de la sortie d'Égypte, le but de la sortie d'Égypte, c'est cette alliance avec Hachem. Ça pourrait s'arrêter là. Les Bnei Israël, ils ont accepté. Quand, bon, quand ça sera plus précis, on pourra faire la cérémonie d'alliance, quoi. Sceller l'alliance. Mais bon, je vous demande de vous engager à l'alliance maintenant, sans connaître le contenu plus avant de l'alliance. L'alliance, c'est vous écoutez ma voix. Donc je vous parle et vous écoutez ce que je vous dis et vous respectez mon alliance. C'est-à-dire, comment est-ce qu'on respecte l'alliance? Voilà, il y aura un contenu, c'est vous écoutez ma voix. C'est ça, respecter l'alliance. Cette alliance-là, Hachem l'avait proposée à tous les peuples. Avant de la proposer, mais ils ont demandé qu'est-ce qu'il y a dans cette alliance? Ça veut dire concrètement, qu'est-ce qu'on va devoir faire? Et du coup, ils ont dit non, dans ce qu'on doit faire, il y a des choses qui nous conviennent pas, on n'accepte pas. Les Israël, ils n'ont pas demandé ce qu'il y avait dedans. Et ils vont dire, Kol Asher, Vayomru, Kol Asher Diber Hashem, Naaseh. On fera tout ce qu'Hachem a dit. Et Moshe a retransmis les paroles du peuple à Hachem. Voilà. Donc c'est fait. Ils ont accepté l'alliance. Et puis maintenant arrive quelque chose de nouveau. Vayomer Hachem el Moshe. Ine, voici, Anochi ba elecha be'aveanan. Voilà, maintenant moi je vais venir vers toi dans l'épaisseur de la nuée, bavour, pour quelque chose de bien précis. Je viens vers toi, bavour, Ishma Ha'am Bedabri Imach. Je vais te parler pour que le peuple entende que je parle avec toi. Et de la sorte, Gambecha Yaminu Leolam. Et du coup, ils vont aussi te faire confiance à toi. Alors maintenant, il y a un passouk. Plus exactement, la fin du verset. Vayaged Moshe divrei ha'am el Hashem. Rashi dit, biyom ha'machorat, shiur revi'i lachodesh. Donc le lendemain, c'est-à-dire le 3, ils ont accepté. Le 4, Moshe a raconté à Hachem, et divrei ha'am, tshuva al davar ze, shamati mehem. Là-dessus, j'ai entendu une réponse de la part d'Ebné Israël. Shiretsonam lishmoa mimcha. Ils ont dit que ils voulaient l'entendre de toi, et pas de moi. Parce que Enodomé, Shomea Mipi Shliach, Shomea Mipi Almelech, c'est la même chose de l'entendre d'un envoyé que de l'entendre du roi lui-même. Retsonenu Lirot et Malkeinu. Les Bnei Israël ont dit, nous voulons voir notre roi. Alors Hachem a répondu à Moshe. אם כן, די רש"י, שהם מספיקים לדבר עמם, puisque ils veulent que je parle avec eux, C'est-à-dire, moi j'avais l'intention seulement de parler avec toi. Mais pour qu'il t'accepte comme étant mon chaliar, il fallait qu'il soit sûr que je parle avec toi. Donc j'ai l'intention de te parler, de faire en sorte qu'ils entendent que je te parle. Comme ça, ils pourront te, quand tu diras Hachem m'a dit, ils sauront qu'effectivement je te parle. Sinon, ils doivent faire confiance sans avoir. Ils savent pas. Comme ça, ils vont savoir. Donc, ça veut dire que Hachem va faire en sorte que la parole qu'il adresse à Moshe, le Bnei Israël l'entende aussi. Ça veut dire que le Bnei Israël, à ce moment-là, ils vont être quasiment à la hauteur de Moshe. Ils vont avoir un degré de prophétie semblable à celui de Moshe, juste le temps qu'il faut pour qu'ils prennent conscience de la réalité de la relation entre Hachem et Moshe. Maintenant, il dit, mais maintenant, ils veulent que moi, je leur parle à eux aussi. Ok, alors si c'est comme ça, hein, alors va les préparer pour ça. Donc, on a l'impression que ça, ce n'était pas prévu par Hachem, en quelque sorte. C'est-à-dire qu'Hachem va parler au Bnei Israël, ça, c'est une demande des Bnei Israël. Vayomer Hachem el Moshe, Lech el ha'am, Vekidashtam ayom u machar. Ils vont se sanctifier, ils vont se purifier aujourd'hui et demain, avec leurs vêtements, et puis ils seront, pour qu'ils soient prêts pour le troisième jour. Parce que ce troisième jour, Hachem va descendre l'Eine Cholaam à l'Ar Sinaï. Aux yeux de tout le peuple, il va descendre sur le Sinaï. Alors tu vas leur donner des instructions. Il ne faut pas qu'ils montent sur la montagne pendant que je vais descendre sur cette montagne. Donc, Moshe Rabbeinu qui était monté sur la montagne, la discussion, elle était entre Moshe et Hachem, alors que Moshe était sur la montagne et Hachem est venu lui parler quand il était sur la montagne, n'est-ce pas? Alors Moshe est redescendu vers le peuple. Il leur a donné les ordres pour qu'ils se sanctifient, qu'ils se purifient. Et il leur a dit, soyez prêts pour le troisième jour. Donc, séparez-vous de vos épouses. Et le troisième jour, au matin, commence le son et lumière. Alors, Moshe Rabbeinu est allé chercher le peuple qui était dans le camp, où il campait, et les amener au pied de la montagne. Et le Sinaï, la montagne, était complètement enfumée, etc. Et le peuple a eu très très peur, c'était très très effrayant. Et puis il y a une sonnerie de chauffard très puissante. Et alors, curieusement, dans le verset Kaf, on dit Moshe idaber ve'Elokim yanenu bekol. Moshe parlait et Hachem le répondait par la voix. De quoi on parle ici? Bon, il était prévu que c'est Hachem qui va parler au peuple. Ça veut dire que c'est Moshe qui parle. Hachem a dit, ils veulent que je leur parle, je vais leur parler. Ils se préparent. Et qui est-ce qui parle? Moshe. Moshe Idaber. Alekim et Yanenu. Hachem va lui répondre. Mais pourquoi c'est Moshe qui parle? Alors Rachid dit, Shaya Moshe Medaber, ou Mashmia ad Dibrot les Israël. Il y a un raccourci. On a sauté un petit peu, on va y revenir, et on se trouve au moment où c'est Moshe qui parle. Sharei lo shamu mipi agvura, ela anochi velo yelecha. Les Bnei Israël n'ont entendu d'Hachem que anochi elo yelecha, que les deux premières paroles. Comme vous savez, ils ont dit à Moshe, nous, ça nous effraie beaucoup trop. C'est toi qui vas nous parler. Hachem va te parler à toi et toi, tu le répercuteras ce qu'il t'aura dit. L'entendant de toi, ce sera moins effrayant. Et donc, le texte ici ne parle de nous dit même pas ici qu'Hachem a parlé les deux premières. On parle tout de suite que c'est Moshe qui parle. Mais comment Moshe peut-il parler et être entendu par tout le peuple? Alors c'est ça le passouk que Hachem, il y a un Enou Bekol, il y a un Enou, il répond Al Dvar HaKol, c'est-à-dire Moshe n'avait pas la force. Hachem l'a aidé, il a amplifié sa voix. Moshe Rabbé nous parlait et Hachem a amplifié la voix de Moshe de sorte qu'elle soit entendue dans tout le corps, dans tout le corps. Pardon, tout partout les Bnei Israël, pardon. Et Hachem est descendu sur le Sinaï. Et Hachem a appelé Moshe pour qu'il monte tout en haut de la montagne, ce que Moshe Rabbeinu a fait. Et alors Hachem a dit à Moshe, va, descends et dis-leur, surtout qu'ils ne montent pas sur la montagne. Alors Moshe a dit, mais je leur ai déjà dit, et ils ne vont pas monter. Hachem dit, encore une fois, c'est pas très bien pourquoi. Hachem, voilà, tu dois redescendre et le redire. Donc, Vayered Moshe, la âme, Vayomer Donc, Moshe est en bas avec les Bnei Israël et il leur dit surtout ne montez pas sur la montagne. Et commence ici. Voilà, maintenant Hachem va parler avec les Bnei Israël. Alors, ce n'est pas tout à fait dans l'ordre, là. D'accord? Puisqu'on nous a raconté que Moshe parle les huit dernières alors qu'on ne nous a pas encore dit que Hachem a donné les deux premières. Bon. Vaidaber Elohim et kol ha'dvarim ha'eleh l'mor. Elohim a dit toutes ces paroles-là, l'mor, pour qu'on les redise. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, Rashi ramène. D'abord, ce qui est frappant, c'est qu'on nous dit c'est Elohim qui parle. Ici, c'est Elohim qui parle. Mais après, quand on va nous expliciter les paroles, c'est marqué Anochi Hashem Elohim. C'est pas Elohim qui parle, c'est Hashem qui parle. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ici que c'est Elohim qui parle? En Elohim, la Dayan. Elohim, c'est le nom divin d'Hachem quand il est Dayan. Le fils Yesh Parshiot Batorah, Shimasan Adam Mekabel Sachar, Vim Lav, Eno Mekabel Alehen, Pouranout. Yachol af aseret adibrot ken, Talmud lomar vaydaber Elokim, Dayan leipara. D'abord, c'est le Dayan qui parle. Ça veut dire que ce que j'annonce ici, c'est quelque chose qui, si c'est transgressé, ça, il y aura des conséquences. Il y aura des pouranout. Et kol advarim haele. Il a dit toutes ces paroles-là. Melamed, Shamar Moshe, Shamar Akadosh Baruch Hu, Aseret Adibrot Akadosh Baruch Hu a dit les 10 paroles tous à la fois. Mashe Efchar le Adam l'a marqué. Ce qu'un homme ne peut pas faire. Imken ma Talmud lomar od anochi velo yelecha. Alors s'il avait déjà tout dit, parce que on nous explicite là anochi, Shechazar upiresh al kol dibur vedibur bifnei atzmo. Hachem est revenu sur chacune des paroles et il l'a expliqué ou explicité. Les morts, Melamed, Shayu Onim, Alhen, Hen, Valav, Lav. C'est très étrange parce que le les morts, il est dit sur le verset qui nous dit qu'Hachem a dit tout à la fois, que par conséquent les Bnei Israël, ils n'ont rien compris. Ce n'est pas simplement qu'un homme ne peut pas le faire, mais on ne peut pas entendre non plus, c'est toutes les paroles à la fois. Et c'est là qu'on dit que les Bnei Israël, ils ont répondu oui et non. C'est-à-dire quand Hachem leur a dit voilà ce qu'il faut faire, ils ont dit oui. Et quand Hachem leur a dit voilà ce qu'il ne faut pas faire, ils ont dit non, on ne fera pas. Mais ça, a priori, le lémor ici, il porte sur les dix paroles, enfin sur toutes les paroles qui ont été dites. Comment ils peuvent dire oui et non sur quelque chose qu'ils n'ont pas entendu, ils étaient tout à la fois. Ils pouvaient pas dire sur le positif, ils pouvaient pas dire oui, ils n'ont pas entendu séparément le positif. Alors ça, je sais pas. Je sais pas quoi faire avec ce lémor. Ça oblige d'expliquer ce qui vient après en disant qu'Hachem a repris et qu'il a expliqué. Mais en fait, on pourrait très bien dire que Elohim, il a parlé, il a tout dit en même temps. Mais nous, on a entendu séparément, comme c'est écrit. À ce moment-là, les morts, on le comprend, effectivement. Ils ont répondu à ce qu'ils avaient entendu. Et donc, nous dire que Hachem a dit tout ça en même temps, c'est seulement nous dire qu'en réalité, à un certain niveau, tout ça, c'est une seule et même phrase, quoi, quelque part. Mais nous, on a entendu 10 phrases. Bon, en fait, ça m'est pas très très clair pourquoi c'est Elohim qui parle. D'abord Elohim et Kol HaDvarim, elle est alors, il va dire après, Anochi Hashem, Elohim. Alors, cette histoire qu'il est Dayan, c'est sûr que Elohim veut dire Dayan, mais Pourquoi est-ce qu'il fallait à ce moment-là parler en tant que Dayan? Il y aurait une avamina, donc. Je pensais que les Aseret HaDibrot, c'est les paroles qui sont dites, et c'est bien d'agir selon ce qui est écrit là. Et si on agit selon ce qui est écrit, on a une récompense. Mais on aurait pu penser que, ben, si on le fait pas, c'est pas grave. Il n'y a pas de sanction. Et pour enlever cette idée fausse, alors il faut que ce soit Elohim qui parle. Dayan, c'est-à-dire, il va y avoir une sanction. Si tu ne fais pas ce qu'il faut, il y aura une sanction. Pourquoi est-ce qu'on pourrait penser. C'est vrai qu'il existe des mitzvot où on te dit de faire les choses, si tu ne fais pas, il n'y a pas de sanction, c'est vrai. Mais. Pourquoi penser que celle-ci en particulier, ce serait toutes les 10, seraient des mitzvot sans sanction? On ne pourrait que gagner en quelque sorte. Une façon de dire, le contenu de l'alliance ici, c'est quelque chose où vous pouvez seulement gagner. En fait, c'est pas fait pour qu'on puisse perdre. Histoire qu'il faut qu'il y ait un problème de Sahar et de Onesh dans cette affaire. Ça fait penser évidemment au Asara Ma'amarot. La Torah, elle rapporte que Akadosh Baruch Hu, il a créé le monde avec 10 paroles. Chazal disent, mais il aurait très bien pu le créer avec une seule parole. Pourquoi est-ce qu'il y en a 10? Alors, c'est fait pour que celui qui fait ce qu'Hachem demande, il aura 10 fois plus de salaire. Mais aussi que celui qui ne le fait pas, il aura 10 fois plus de sanctions. Donc, quelque part, ce chiffre, ce passage de 1 à 10, quoi, quelque part, il est fait pour asseoir le principe, hein, ou la règle de Sraf Véronèche, de sanction et, enfin, de récompense et de sanction. C'est fondamental, semble-t-il. Mais là, on aurait pu penser que non. Je sais pas, c'est simplement d'excellents conseils, quoi, quelque part. Parce qu'Hachem avait dit, si vous acceptez ce qu'il a dit, c'est si vous acceptez mon alliance, alors à partir de maintenant, ce sera toujours bien pour vous, quoi. Donc on peut très bien dire que bon, ben, on parle pas de ce qui se passerait si vous n'acceptez pas. Comme si, d'une certaine manière, Akadosh Baruch Hu voulait dire, mais ce sera bien pour vous, pourquoi ne le feriez pas? Pourquoi vous ne le feriez pas? Bon, mais ce n'est pas complètement satisfaisant. Je sais pas, pour l'instant, je ne sais pas mieux. Alors, la première phrase, elle pose problème. Anochi Hashem Elokecha. Asher oseti cha meretz Mitzrayim mibet avadim. Où est la mitzvah là? Il n'y a pas de mitzvah. Donc, comme on voit, cette phrase-là, a priori, elle ne contient pas de mitzvah. C'est ce que pensent beaucoup de Farshim. C'est une présentation, en quelque sorte. Hachem se présente. Comme si ces paroles-là, Hachem, c'est comme si Hachem avait dit au Bnei Israël, on va faire une alliance, alors je me présente, alors je suis celui qui vous est sortir de l'Égypte, mais si vous voulez en savoir un peu plus sur moi, alors voilà ce que je... Voilà les valeurs, en quelque sorte, que je présente. C'est-à-dire, si vous voulez me connaître, eh bien, voilà, c'est une façon de me connaître. Mais Rambam, lui, pense qu'il y a une mitzvah. Il pense que ici, les Bnei Israël ont reçu une mitzvah de connaître Hachem. Connaître Hachem, c'est-à-dire, pour Rambam, c'est faire une recherche philosophique. Pour connaître Hachem. Évidemment, bon, c'est Rambam qui apprécie la philosophie, quoi, si on peut parler comme ça. Mais les autres, ils ont crié au scandale. Là, tu vas entrer la Grèce dans les mitzvot, quoi. Donc il y aurait ici un commandement. Certains vont le dire, c'est croire en l'existence d'Hachem, quoi. Arriver à faire une démonstration philosophique de l'existence d'Hachem. Effectivement, il y a des temps où on s'occupait beaucoup de ça. Le premier chapitre du Chovot HaLevavot, tout le monde dit. Extraordinaire le Chovat HaLevavot, mais il faut sauter le premier chapitre. Il y en a qui n'enseignent jamais le premier chapitre, qui est le Shara Yechud, la philosophie. Alors là, Hachem se présente et il se présente. Qu'est-ce qui est le plus important dans cette phrase? Anochi Hachem Elokecha, Asher Hotzeticha, Meretz Mitzrayim, Ibet Avadim. Le mot probablement le plus important, c'est Elokecha. C'est-à-dire, j'accepte d'être ton Elohim. Alors, pour Rambam et d'autres, accepter ça, c'est la condition primordiale pour que l'acceptation des mitzvot ait un sens. Tu n'acceptes pas la royauté d'Hachem, tu n'acceptes pas qu'il est ton Dieu, en fait, ben les mitzvot, elles n'ont pas de sens. Rabbi Yehuda Halevi demande pourquoi Hachem s'est présenté comme étant Mitzrayim, pourquoi il ne s'est pas présenté comme étant le créateur du monde, le plus grand? Mais la réponse, elle est assez facile. Hachem parle avec des gens et il se présente. Dire j'ai créé le monde, ça ne veut rien dire à personne. Je veux dire, on ne sait pas très bien ce que ça veut dire. Mais eux, ils ont expérimenté qu'ils ont sorti d'Égypte. Ils parlent à des gens qui, il y a 50 jours, 50 jours plus tôt, étaient sortis d'Égypte. Donc, c'est bien clair que c'est comme ça qu'il fallait se présenter. Ça a du sens. Et donc, même si effectivement c'est Elohim qui parle, mais Hachem, où est Elohim? D'accord? Mais Elohim, ou l'Ohachem Hachem? Alors, de se présenter comme Hachem, c'est surtout pour que on comprenne bien que c'est uniquement lui qu'on sert. C'est pas, on n'a pas le droit d'apporter un korban pour Elohim ou un korban pour Kel Shakai, etc. Les korbanot, et donc la tfila, dans la tfila, on ne peut parler de Elokeinu, etc., qu'après avoir dit Hachem. Baruch Ata Hachem. D'abord, la tfila, elle est adressée à Hachem. Elle n'est pas adressée à aucun des autres noms. Ah, et des fois, c'est marqué Elokeinu, Elokeinu, parce que ça se réfère toujours à ce qui a été dit au tout début, du texte où on a mis Hachem, le tétragramme. Sur l'usage du premier mot, Anochi, pourquoi Hachem n'a pas dit Ani, Hachem Elokecha? Pourquoi il dit Anochi? Non, je sais, j'ai une fois entendu, mais je ne sais pas d'où ça venait. Je ne me rappelle plus, je ne sais même plus si j'étais sûr. Dès que Anochi, c'est un mot égyptien. Et qu'il fallait, pour que les Bnei Israël ne soient pas effrayés, que le premier mot qu'ils entendent, c'est un mot qui les met à l'aise, quoi. Un mot avec lequel ils étaient, bon. Je sais pas si c'est vrai. Il y a un rav chassidique, un peu révolutionnaire, Meir Shiloach, qui dit que Anochi, c'est Ani avec le Kaf, la lettre Kaf. Or, la lettre Kaf, elle sert pour dire c'est comme si. Donc, il veut dire pas, c'est comme si, ici, il disait, c'est comme si c'est Annie, c'est moi, mais c'est pas moi qui vous parle directement, c'est comme si c'était moi. Mais directement, c'est presque pas possible, quoi. À tout le peuple, on peut pas entendre, mais bon, c'est une lecture facilique. Voilà, on va s'arrêter là.